Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h04, merci d'être avec nous. Ce matin, Eric Revel et Philippe Bilger sont là pour échanger avec vous, 0826-300-300.
Oui. Philippe Bilger, bonjour à vous, Philippe.
Bonjour.
On va revenir.
Bonjour,
avec,
hein, Cécile.
On va revenir avec vous sur ce voyage d'Emmanuel Macron qui est au Rwanda encore aujourd'hui. Et puis hier, il y a eu ce discours prononcé où, il a reconnu les responsabilités de la France. Alors, sans présenter d'excuses et en niant quand même toute complicité du pays dans le génocide de 94. Que vous inspire ce discours et la façon d'ailleurs dont aborde Emmanuel Macron l'ensemble des faits historiques qui ont mêlé la France ?
Bizarrement, Patrick, en pensant au Rwanda, j'avais dans la tête la célèbre phrase de De Gaulle qu'il appliquait à l'Orient. Je volais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Le Rwanda, je crois que ça a été longtemps une absolue complexité. Maintenant, on commence à y voir un peu plus clair. D'abord, je considère que le discours d'Emmanuel Macron a été une réussite parce qu'il a trouvé la voie étroite entre l'abstention qui aurait été choquante et la repentance qui aurait été inadmissible. Il a trouvé le moyen de reconnaître la responsabilité de la France, non pas dans le génocide, bien sûr, mais dans l'organisation un peu imparfaite des secours. J'ajoute qu'il a trouvé le moyen d'y réussir parce qu'il a mis en place cette commission Duclert, ce qui a permis à l'État, d'une certaine manière, de se désengager et de laisser des experts indiquer la bonne voie. Mais il a d'autant mieux fait qu'il est évident que la France n'a pas été une catastrophe et n'a pas démérité. Certes, elle aurait pu faire mieux, mais tout de même, elle est à peu près la seule qui a fait une intervention là-bas. Mais une fois que j'ai dit ça, il me semble qu'il y a un risque et peut-être des constats. D'abord, je considère que le génie international de Mitterrand, dont on le crédite assez volontiers, a connu des faiblesses au Rwanda, par exemple, et en Serbie dans d'autres temps. Deuxième élément, ce qui me paraît important, c'est que, certes, Emmanuel Macron a bien fait, mais je ne voudrais pas qu'il prenne l'habitude de battre la coulpe de la France sur la poitrine des autres. Il ne faut pas trop exagérer dans ce domaine. Troisième élément, Patrick, je me demande, en définitive, si cette manière d'aller vers le passé en permanence n'est pas la prise de conscience que l'avenir sur le plan international offre peu de possibilités d'action à un pouvoir. Et donc, on va naturellement vers un passé. Il y a un survivant du Rwanda qui disait « Le pardon, c'est l'avenir ». Mais je me demande si, au fond, cette manière d'aller vers le passé n'est pas un petit peu une manière de nier l'avenir. Il faut que la France fasse attention d'aller plutôt vers l'avant qu'aller en permanence se repentir vers l'arrière, même si Emmanuel Macron a très bien manœuvré en l'occurrence, et qu'on peut espérer que ce dictateur qui est Kagame un jour acceptera une normalisation des relations entre son pays et la France.
Oui, bon, sur les réseaux sociaux, beaucoup disent quand même que Emmanuel Macron en fait un peu trop dans le. Alors là, cette fois-ci, dans la responsabilité par rapport au Rwanda, et puis même d'une façon générale, un petit peu là vous rejoignez en fait beaucoup d'internautes qui disent que. Oui, il faudrait qu'on s'occupe davantage peut-être du moment, des urgences en fait du moment, plutôt que de regarder trop sur le passé, quoi. De se retourner sur le passé.
C'est sûr, Patrick, parce qu'à l'évidence, on se rend compte qu'Emmanuel Macron, dans des registres différents, aime beaucoup retourner vers le passé où il n'aurait pas de responsabilité particulière, mais je me demande si ça ne participe pas d'une sorte de mélancolie, de morosité française. Mon Dieu, sans tomber dans la démagogie, on souhaiterait peut-être que le président s'attachât davantage à ce qui va mal en France, plutôt qu'en permanence à se poser comme une sorte de justicier, parfois inutile, de la vie internationale.
Oui, un mot de commentaire à ce que vient de dire Philippe Bilger, avec vous Éric Revel.
Oui, oui, je partage ce que dit Philippe. Deux petites remarques, si vous me permettez. La première, c'est que à propos de François Mitterrand et de sa vision internationale, c'est vrai qu'il y a eu quand même une immense mansuétude des commentateurs de l'époque à ne pas voir les failles dans cette vision internationale. Vous en citiez une, mon cher Philippe, mais on pourrait aussi citer le discours de Cancun de François Mitterrand, où il avait expliqué qu'il n'y avait pas de développement sans démocratie, ni de démocratie sans développement, alors qu'historiquement, d'ailleurs, c'est faux. Hein, il y a des tas de dictatures qui se sont développées économiquement. Mais surtout, il avait déstabilisé complètement l'Afrique avec ce genre de sortie. Personne ne lui avait reproché à l'époque. Et c'est vrai qu'il y a une certaine mansuétude autour des visions historiques de François Mitterrand. Maintenant, sur le Rwanda, si vous le permettez. Le discours était équilibré d'Emmanuel Macron. On sent que le président de la République essaie de se dessiner un profil de président français qui marquerait de cette manière l'histoire en versant quand même dans la repentance. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est pas évidemment de s'incliner devant le drame rwandais, c'est la moindre des choses. D'ailleurs, d'autres pays comme l'Allemagne, je sais pas si vous avez vu, mais reconnaît un génocide en Namibie que l'Allemagne avait colonisé au début du XXe siècle. Donc, ce qui me gêne dans les déclarations peut-être d'Emmanuel Macron, c'est que on est un peu perdu, face au président de la République et à cette image internationale, parce qu'on est perdu entre, il veut marquer l'histoire et reconnaître des drames à l'international dans lesquels la France a plus ou moins trempé, passez-moi l'expression, mais en même temps, quand Erdogan hausse le ton en Turquie, on a l'impression que la France prend une claque, vous voyez. Et c'est pas très clair, me semble-t-il, je sais pas ce que Philippe en pense.
Oui, vous avez raison. Au fond, le passé est une forme de confort par rapport aux difficultés du présent. Et ça peut être une tentation pour un pays qui est confronté finalement à la difficulté d'entreprendre dans ce qui concerne directement les citoyens et le monde. Et Emmanuel Macron, avec une sorte de nostalgie un peu perverse finalement, va trop vers le passé, et même si là il a trouvé le ton juste.
Oui, merci beaucoup Philippe Bilger, Éric Revel. Alors ça fait partie des sujets du jour. L'un des autres sujets quand même du moment qui intéresse beaucoup aussi les auditeurs, évidemment, c'est la suite du confinement, du déconfinement plutôt, et du Covid.
Avec nous, Olivier.
Olivier qui nous du côté de Montpellier. Bonjour Olivier.
Bonjour
Olivier. Oui.
Bonjour, je vous appelle comme de temps en temps j'interviens un petit peu sur votre antenne. Alors déjà pour réagir vite fait sur ce que vient de dire Monsieur Bilger, je suis totalement d'accord avec, je vais même beaucoup plus loin que ça. Dans le sens où ce monsieur, c'est un Don Quichotte, un Don Quichotte qui ne fonctionne qu'en regardant dans le rétroviseur. Les affaires courantes, il est totalement incapable. Et quant à la trace qu'il va laisser dans l'histoire, c'est du plus mauvais président qu'on ait jamais eu. Ça, c'est certain. Et quant à la gestion du déconfinement et de tout ce qui se passe, je vais vous dire franchement, c'est une catastrophe aux proportions bibliques.
Pourquoi catastrophe, Olivier? Parce que on a l'impression que ça reprend quand même là et qu'il y a des activités en fait de nouveau et il y a une baisse de l'épidémie à ce niveau-là Olivier.
Si on retrouve dans 6 mois ou même dans 3 mois, on en reparle. Je vais vous dire exactement ce qui va se passer parce que ça va être la même. Ouais. On va dans 3 ou 4 mois, on va vous sortir un variant indien, chinois, belge ou martien. D'accord. On va reconfiner tout le monde et on n'a toujours pas résolu le problème. C'est-à-dire qu'on a En amont, les tests, ils sont pas fiables. Je peux vous dire une chose, je suis passé sur billard en décembre, j'en ai eu 4, 2 positifs, 2 négatifs. Allez chercher l'erreur. Mmh. Enfin bon, c'est comme ça. Derrière, on balance de la vaccination à outrance, y compris sur les jeunes, alors qu'on sait très bien qu'ils sont pas atteints. On sait même pas ce que ça va faire dans l'avenir. Et ça, je peux vous dire, je suis largement bien placé parce que aujourd'hui, malheureusement, je suis plus en poste parce qu'avec l'histoire de Covid, le groupe pour lequel je travaille, les 5 sociétés, OTA, mais ça, on s'en fout. D'accord?
Bah non, on s'en fout pas, Olivier. Ça, c'est,
Des indications de la HAS en intervenant plus au bloc opératoire, en ne faisant plus ce genre de choses. Et puis derrière, on va sortir 100 000 morts en plus parce qu'il y a 90 000 personnes qu'on n'a pas dépistées en cancer phase 1.
Oui, non, mais voilà. Ça, c'est vrai et ça a beaucoup décalé d'opérations, de détection de maladies. Ça, c'est vrai. Bon, après, pour le reste, c'est difficile, je pense, de préjuger de ce qui va se passer en fait à l'avenir. Pour l'instant, il y a quand même une baisse de la contamination. Je pense que après qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais quand même la vaccination pour certains permet de protéger. Pour les jeunes, je ne sais pas évidemment ce que ça donnera, mais c'est vrai qu'il y a un manque de fiabilité parfois des tests. Quand même, malgré tout, c'était mieux que rien. J'en prends pour exemple ce qui s'est passé du côté des Pyrénées avec ce lycéen qui a attrapé pour la 3e fois le Covid. C'est assez exceptionnel. On en parlait tout à l'heure dans le journal d'Arthur Delaborde. Et visiblement, il y a eu un problème de fiabilité des tests lors des premières fois puisqu'il était un peu asymptomatique, mais il a quand même fait un test. Enfin, c'est assez compliqué. C'est vrai qu'il y a encore un certain nombre de mystères derrière tout ça. Merci en tout cas d'avoir réagi. Merci Philippe Bilger, Éric Revel. Vous pouvez rester à l'écoute, évidemment, poser vos questions aussi, peut-être, si vous le souhaitez, bien sûr, à la personnalité que nous allons recevoir dans un instant, parce que c'est une personnalité.
Qui a toujours quelque chose à nous apprendre.
Oui, c'est vrai. Et qui a marqué, qui marque encore beaucoup avec son discours de vérité sur nos relations à l'autre, et notamment, évidemment, dans l'amour. C'est Brigitte Lahaye qui sera avec nous dans un instant. Mais avant cela, un peu de bonheur aussi avec notre gagnant, non?
Oui,
notre
gagnante. Non, pas encore.
Pas encore.
Ah bon, voilà, d'accord.
Dans
quelques instants.
Pas encore. Donc, il faut vous faites durer le plaisir,
on fait,
c'est ça?
Oh là là, oui.
Ah, très bien, je vois. Allez, dans un instant.
En parlant de plaisir, ouais. Eh ben, on sera ravis de l'accueillir dans un instant.
Le nouvel art d'aimer. Brigitte Lahaye, qui est avec nous dans un instant.
N'hésitez pas, 0826 300 300. On vous attend au standard.